Il vous est présenté par Antoine Marette. Bonjour Antoine.
Bonjour Marie, bonjour à tous. Les gardiens de prison en colère après l'agression au couteau qui a eu lieu hier à la prison de Condé-sur-Sarthe. Les auteurs sont un détenu radicalisé et sa compagne. L'invité du journal de midi et demi sera Damien Pelen du syndicat national des directeurs de prison.
La France donne le coup d'envoi de sa taxe numérique. Le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire a présenté lors du Conseil des ministres un projet de loi instaurant donc une taxe de 3% sur leur chiffre d'affaires numérique réalisé en France. Un impôt national à défaut d'un impôt européen, car Paris n'a pas réussi à convaincre des partenaires.
Carlos Ghosn est sorti de sa prison japonaise. L'ancien patron de Renault et Nissan a été libéré sous caution après 107 jours passés derrière les barreaux. Et pour retrouver la liberté, il a dû verser 8 millions d'euros.
Au moins 16 morts et 9 blessés ce matin dans une attaque suicide dans l'est de l'Afghanistan. 5 assaillants qui ont été tués s'en sont pris à une entreprise locale de BTP proche de l'aéroport de Jalalabad.
Midi 55, seconde partie de la grande table avec vous Marie Richeux.
Et ce sera avec la réalisatrice Delphine Minoui qui consacre un documentaire à une bande d'amis qui a fondé une bibliothèque sous les bombes à Daraya en Syrie pendant le siège.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
C'est un vaste mouvement de protestation qui s'est installé en France depuis hier. Plusieurs dizaines de prisons ont été bloquées dans la matinée par des surveillants. 2 le sont encore actuellement. Une colère qui fait suite à l'agression hier de 2 surveillants avec des couteaux en céramique dans la prison de Condé-sur-Sarthe. Le détenu radicalisé Michael Thiolo et sa compagne venus lui rendre visite se sont ensuite retranchés pendant près de 10 heures dans l'unité de vie familiale. Leur aide a lancé l'assaut en début de soirée. Michael Thiolo a été interpellé, sa compagne abattue. Notre envoyé spécial Jérôme Jadot se trouve devant la prison de Condé-sur-Sarthe, devant laquelle une centaine de personnes manifestent, des surveillants qui expriment leur colère. Certains d'entre eux avaient signalé à leur hiérarchie la dangerosité de Michael Thiolo.
Tous les surveillants qui l'ont côtoyé le disent, ce détenu radicalisé ne faisait pas de vagues. Jean-Éric Clanclet, délégué FO, le voyait tous les jours aux ateliers.
Franchement, on peut dire qu'il avait un comportement très très correct. Mais après, ça veut rien dire. Donc, c'est vraiment être sournois. Donc, quelqu'un de très gentil, très poli, okay, qui cachait bien son jeu.
Une duplicité soulignée par d'autres agents, notamment ceux de la maison centrale 2 où ils se trouvaient. Ils décrivent quelqu'un qui était comme en repérage lors des déplacements, observant les mouvements des surveillants qui testaient leur réaction aussi parfois en glissant sa main dans sa poche. Un gardien raconte qu'il évitait de s'approcher à moins de 3 mètres de lui. Des suspicions qui avaient été notifiées, assure Frédéric Eco, délégué FSU.
On a signalé, on a demandé à ce que le détenu soit retiré de sa détention ordinaire pour le mettre dans le quartier des personnes radicalisées. Mais sauf que la direction n'a pas voulu nous écouter avec pour raison qu'ils n'avaient pas la réponse de l'ADAP, la direction de l'administration pénitentiaire. Mais aujourd'hui, on a les résultats.
Un surveillant note également que l'auteur des coups de couteau s'était rapproché ces derniers temps de 2 autres détenus plus radicalisés que lui et que ces tout derniers jours, il était devenu plus froid.
Invité de ce journal, Damien Pelen. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes membre du syndicat national des directeurs de prison. Comment un détenu à longue peine peut-il se retrouver avec un couteau dans une prison censée être ultra sécurisée?
C'est toute la question qui va être, à mon avis, élucidée par l'inspection générale de la justice qui va faire une mission au sein du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Une chose est sûre, c'est que vraisemblablement, le couteau retrouvé était en céramique, donc passait par tous les portiques de détection de manière à ne pas sonner.
Question de Florence Turm, chef du service société à France Culture.
Et que l'on ne peut pas, ce sont les directives européenne qui l'impose, fouiller systématiquement, opérer systématiquement des fouilles sur les visiteurs.
Nous ne pouvons pas, dans un cadre légal aujourd'hui, palper les visiteurs à chaque fois qu'ils rentrent. Nous ne pouvons le faire que lorsque les agents ont une suspicion ou lorsqu'une personne sonne à plusieurs reprises au portique. Là, on peut, avec l'accord de la personne qui vient visiter le détenu, lui faire une palpation.
Et si elle n'est pas d'accord ?
Si elle n'est pas d'accord, elle ne rentre pas dans l'établissement et elle repart chez elle.
Et il y a aussi la possibilité de recourir aux forces de sécurité extérieure à la prison.
On peut, le cas échéant, appeler les forces de l'ordre lorsqu'il y a une difficulté et demander, solliciter une intervention des forces forces de l'ordre, oui.
Alors, Michael Kelo n'était pas détenu dans un quartier de prévention de la radicalisation. Il n'avait pas fait l'objet non plus d'une évaluation préalable, alors qu'il avait été repéré depuis 2015 à travers ses comportements prosélytes, condamné pour apologie du terrorisme après avoir incité d'autres détenus à mimer l'attentat du Bataclan. L'administration pénitentiaire, les directeurs, les surveillants sont-ils réellement outillés pour ces évaluations? Et puisqu'il n'y a pas non plus une trop grande dépendance, un trop grand formalisme au sein de votre administration?
Le formalisme, je pense qu'il est nécessaire, puisqu'on ne va pas coller des étiquettes à toutes les personnes qui sont écrouées. Donc le formalisme et l'obtention d'éléments objectifs restent nécessaires et obligatoires. Après, sur l'évaluation, c'est bien la problématique de l'administration pénitentiaire que d'évaluer des gens qui ont, et on l'a vu hier, des comportements de dissimulation avec des passages à l'acte ultra-violents et soudains. Et malheureusement, on n'est pas aujourd'hui outillé pour faire face à ces passages à l'acte violents et qui arrivent de manière soudaine, qu'on ne peut pas préparer. Quand on sent qu'une personne est en crise, qu'elle va passer à l'acte, on peut se prémunir. Là, dans le cas actuel, il n'y avait pas ces éléments. Et les surveillants dans votre reportage le confirment aussi.
Les surveillants qui disent avoir alerté la direction des comportements suspects.
Oui, alors moi je ne travaille pas à Condé-sur-Sarthe, donc je ne sais pas quelles étaient ces alertes et quels étaient les éléments transmis de manière objective. Une personne qui regarde, qui est attentive au mouvement des surveillants ou au positionnement des uns et des autres dans l'établissement, ce n'est pas dû qu'à une personne. Il y a beaucoup de personnes détenues qui sont dans cette observation.
Effectivement, au-delà de la radicalisation, la dangerosité d'un détenu, la dangerosité en l'occurrence de Michael Kelo, a-t-elle vraiment été évaluée, notamment pour qu'il ait le droit à bénéficier de ses unités de vie familiale?
Alors, si on résume l'obtention d'une UVF à une réelle dangerosité, en maison centrale, beaucoup de détenus sont dangereux, donc n'auraient pas accès aux UVF. L'UVF est obtenue parce qu'il y a on admet une personne dans une unité de vie familiale parce qu'il y a des éléments qui font qu'elle doit maintenir ses liens familiaux. Les personnes condamnées à des longues peines y ont le droit comme toutes les autres personnes. Pour le cas de M. Kelo, je ne connais pas sa situation et je m'en garderai bien de le dire. Une chose est sûre, c'est pourquoi, sous prétexte d'être identifié comme ayant commis des faits particuliers, on n'aurait pas le droit à une UVF. Là, c'est un peu en opposition avec le maintien des liens familiaux et aussi avec les projets de réinsertion qu'on peut mener avec des détenus condamnés à des longues peines.
Cela dit, Nicole Béhouloubé estime ce matin qu'il y a encore des failles dans le système pénitentiaire. Elle le dit de cette manière-là. Elle promet d'y remédier, tandis que les personnels pénitentiaires dénoncent les agressions, le manque de moyens, l'insécurité qui les met en danger, pas seulement d'ailleurs face à des prisonniers radicalisés. Alors que faut-il faire, selon vous? Est-ce qu'il y a des éléments concrets, des mesures concrètes à prendre qui feraient au moins avancer les choses à défaut de trouver des solutions définitives?
Il y a des failles, c'est une certitude. Il y a des failles, pourquoi? Parce qu'on est avec des gens et des personnes humaines. On n'a pas des robots en face de nous. Donc la faille, elle est toujours présente. Parce qu'on ne lit pas dans une boule de cristal sur le comportement futur d'une personne. Une chose est sûre, c'est que relier le renseignement pénitentiaire, qui actuellement est dans un couloir, on va dire, annexe à la prise en charge qu'on peut faire dans les établissements, aux prises en charge en interne, est une nécessité. On ne pourra pas évaluer correctement des gens si le renseignement pénitentiaire, comme c'est le cas actuellement, reste en marge de la vie des établissements pénitentiaires.
Merci à vous Damien Pelaine d'avoir accepté notre invitation dans le journal de France Culture. La France donne le coup d'envoi de sa taxe numérique. Le ministre de l'Économie et des Finances a présenté lors du Conseil des ministres un projet de loi instaurant donc une taxe de 3% sur leur chiffre d'affaires numérique réalisé en France. Un impôt national à défaut d'un impôt européen car Paris n'a pas réussi à convaincre ses partenaires. Bonjour Bastien Roch.
Bonjour.
Bruno Le Maire a détaillé les modalités de cette taxe GAFA en Conseil des ministres. Que sait-on précisément de cette taxe?
Eh bien, la taxe proposée par le ministre de l'économie, elle se veut à la fois ciblée est simple. Les cibles donc sont désignées. Ce sont d'abord les plateformes de mise en relation, comme Amazon. Ensuite, les entreprises de publicité ciblées en ligne. Et enfin, celles qui leur vendent des données d'utilisateurs à des fins publicitaires. Elles visent aussi les gros poissons, à savoir les groupes qui réalisent plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires par an dans le monde, dont 25 millions en France. Enfin, le gouvernement a fait le choix d'un taux unique, vous l'avez dit, 3% d'imposition sur le chiffre d'affaires des entreprises concernées sur les activités désignées. Pour Amazon, par exemple, on s'intéressera uniquement à son chiffre d'affaires sur les transactions entre les utilisateurs de sa plateforme, mais pas sur ses propres ventes à elle.
Et à quoi doivent s'attendre les entreprises françaises ?
La loi a été réglée sur mesure pour épargner au maximum les entreprises françaises du numérique. En fait, une seule devrait être concernée. Criteo, c'est une entreprise qui fait du ciblage publicitaire en ligne. Le ciblage publicitaire, pour rappeler à nos auditeurs, c'est ce qui fait que les publicités des sites qu'ils visitent collent exactement à leur dernière recherche sur Google ou au lieu de résidence qu'ils ont pu renseigner sur les réseaux sociaux.
Et alors pour les consommateurs, est-ce qu'on peut craindre une répercussion de cette taxe sur les prix ?
Bruno Le Maire a justement été interrogé ce matin sur ce sujet en conférence de presse et il a assuré que non. Son argument, c'est que les utilisateurs ne paient pas pour recevoir de la publicité ou pour voir leurs données revendues. Et on a envie de dire encore heureux. La seule augmentation peut survenir au niveau des plateformes de mise en relation. Ces plateformes, elles récupèrent environ 10% des échanges qu'elles génèrent. 3% de 10%, c'est, selon le ministre de l'Économie, un écart négligeable.
Alors au final, combien cette taxe est-elle censée rapporter ?
Autour de 500 millions d'euros par an, suivant la croissance des entreprises dans ce secteur. Bercy table sur 400 millions d'euros cette année, 450 millions en 2020, 550 millions en 2021 et enfin 650 millions en 2022. Bruno Le Maire le précise, c'est une taxe provisoire en attendant un éventuel accord au sein des membres de l'OCDE.
Merci à vous Bastien Roch. Cette nouvelle taxe ne fait pas l'unanimité en Europe et la France n'a pas réussi à convaincre ses partenaires les plus réticents, parmi lesquels l'Allemagne. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour Antoine.
Vous êtes notre correspondant à Berlin. Alors qu'est-ce qui inquiète Berlin dans cette affaire ?
Ah ben c'est vrai que si l'on prend toutes les déclarations des responsables politiques allemands de ces derniers mois, le refus a été pour le moins poli, un peu comme avec d'autres propositions françaises d'ailleurs, et cela même si Bruno Le Maire a personnellement mouillé la chemise, il a multiplié les voyages ici à Berlin et les échanges avec son homologue Olaf Scholz, un social-démocrate qui n'est pas a priori si fermé que cela à cette proposition. Ce ministre SPD ne fait pas partie de ceux qu'il faut convaincre sur la dimension populaire d'une telle taxe. Il a bien compris quel pouvait être le signal envoyé aux citoyens à quelques semaines d'élections européennes, sauf qu'au sein d'un gouvernement de coalition, il n'est d'abord pas tout seul. Et puis, s'il est resté ferme aussi face à Bruno Le Maire, c'est pour défendre égoïstement sa propre économie, sa propre industrie. Un exemple pour comprendre, l'Allemagne vend dans le monde entier ses voitures avec un système de navigation embarqué qui collecte au passage tout un tas de données qui sont revendues. Il était donc inenvisageable que ces grandes entreprises allemandes soient aussi taxées. Dès qu'il est question de commerce ou de fiscalité internationale, de façon plus générale, l'Allemagne, en tant que nation fortement exportatrice, est toujours particulièrement prudente. Le pays ne veut pas se froisser non plus avec les États-Unis. C'est un gros marché. En taxant tout à coup ces grosses firmes du numérique, elle craint tout simplement le retour de bâton. Et puis, l'ambiance est déjà si tendue qu'elle ne veut pas déclencher de guerre commerciale. D'où le souhait de Berlin d'agir, dit-on, de façon coordonnée, pas uniquement au niveau européen, mais à l'échelle mondiale. C'est une excuse idéale pour reporter au calendrier la proposition française.
Merci Ludovic. L'ONU réclame à Paris une enquête sur l'usage excessif de la force. En ligne de mire, les violences policières qui se seraient produites pendant les manifestations des Gilets jaunes depuis la mi-novembre. Dans un discours prononcé devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, la haut-commissaire aux droits de l'homme a déclaré, je cite, que les Gilets jaunes manifestaient contre ce qu'ils considèrent comme leur exclusion des droits économiques et de leur participation aux affaires publiques. Elle a ajouté, je cite encore, « Nous encourageons le gouvernement français à poursuivre le dialogue et demandons urgemment une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force. » Plusieurs manifestants affirment avoir été blessés par des tirs de lanceurs de balles de défense, les fameux LBD, une arme qui suscite de vives controverses en France. Les pompiers en campagne pour les européennes, ils ne visent aucune place sur une liste, mais ils interpellent tous les candidats. Car disent-ils, le modèle du sapeur-pompier volontaire, qui représente 80% des effectifs en France, est en danger. En cause, la directive sur le temps de travail de 2003, que les pompiers de France, mais aussi d'Allemagne et de Suède, souhaiteraient voir complétée par une autre directive. Ils interpellent aujourd'hui tous les candidats, Mathilde Hémy.
Un pompier volontaire et d'astreinte de nuit chez lui est-il un travailleur comme les autres ? À cette question posée par un pompier belge, la Cour européenne de justice a répondu oui, se basant sur la directive sur le temps de travail. Si la France applique cet arrêt, le nombre de pompiers volontaires pourrait chuter des deux tiers, selon le colonel Grégory Allion, président de la Fédération nationale.
67% des sapeurs-pompiers volontaires en France sont salariés et travailleurs. Ça voudrait dire que ils devraient demander à leur employeur d'avoir une deuxième activité salariée. Au final, on estime à ce que ces 67% soient non autorisés à être pompiers volontaires. Notre sécurité civile du quotidien serait anéantie.
Les pompiers proposent donc aux candidats aux européennes une nouvelle directive, car la loi française qui consacre leur volontariat ne suffit pas, estime le colonel Allion.
Nos arguments trouvent de l'écho. On travaille notamment sur la rédaction de cette directive avec certains et on espère que le gouvernement sera proactif et accompagnera les futurs députés européens et nous permettra avec la fédération faire en sorte que notre modèle d'engagement citoyen comme sapeurs-pompiers volontaires qui protège les Européens soit préservé dans le temps.
Salarier tous les pompiers coûterait 2,5 milliards d'euros. Intenable et pas souhaitable, insiste le patron des pompiers, car l'engagement bénévole permet une société plus résiliente, dit-il.
Midi 45 sur France Culture, Carlos Ghosn est sorti de sa prison japonaise. L'ancien patron de Renault et Nissan a été libéré sous caution après 107 jours passés derrière les barreaux. La justice nippone lui reproche des malversations financières. Et pour retrouver la liberté, il a dû verser 8 millions d'euros. Le traitement qui lui a été réservé a suscité de nombreuses critiques à l'étranger et sa libération sous caution est considérée comme exceptionnelle dans ce type de cas, puisque Carlos Ghosn nie vigoureusement tous les faits qui lui sont reprochés. À Tokyo, les explications de Karine Nishimura.
Casquette bleue, masque sanitaire blanc, lunettes et bleu de travail, c'est dans cette tenue improbable que Carlos Ghosn est sorti de la prison de Kosuge. Tous les journalistes qui étaient aux aguets depuis des heures ont d'abord douté avant de réaliser, grâce à sa démarche et son regard unique, que c'était bien l'illustre patron déchu. Il s'est immédiatement engouffré dans un mini-fourgon banalisé fourni par ses avocats, échappant aux caméras fixes, mais pas aux hélicoptères des télévisions japonaises qui ont suivi son parcours jusqu'au bureau d'un de ses défenseurs japonais. Son épouse Carole et l'une de ses filles ont été aperçues à la mi-journée au centre de détention. Si l'ex-mania de l'automobile n'a pas parlé immédiatement, on espère une conférence de presse rapidement car il lui tarde de présenter sa version des faits. Il a déjà clamé son innocence et a promis de se défendre avec la vigueur qu'on lui connaît. C'est en tout cas une nouvelle vie de semi-liberté qui débute pour Carlos Ghosn puisqu'il est assigné à résidence au Japon et sera sous surveillance particulière stricte avec des moyens très limités de communication avec l'extérieur. Il devra par exemple se rendre chez son avocat pour utiliser un ordinateur et son smartphone ne lui permettra pas de se connecter à Internet. Son défenseur Junichiro Hironaka, baptisé l'innocenteur, est le garant qui devra veiller au respect des règles imposées à Carlos Ghosn dans l'attente de son procès qui ne débutera pas avant plusieurs mois.
Au moins 16 morts et 9 blessés ce matin dans une attaque suicide dans l'est de l'Afghanistan. Les 5 assaillants qui ont été tués s'en sont pris à une entreprise locale de BTP proche de l'aéroport de Jalalabad. Cette attaque n'a pas été revendiquée. Précision de Sonia Ghezali, correspondante de RFI en Afghanistan.
L'attaque a commencé à 5 heures du matin heure locale. Elle a duré près de 7 heures. 5 hommes armés ont lancé l'assaut sur le site de l'entreprise de construction située dans un district de la province de Nangarhar. 2 se sont fait exploser. Les 3 autres ont ouvert le feu à l'intérieur des locaux, tuant et blessant plusieurs employés de la société EBE, s'engageant ensuite dans des échanges de tirs avec les forces de sécurité arrivées sur place. L'entreprise de construction prise pour cible intervient régulièrement dans l'aéroport militaire de Jalalabad à 20 minutes du centre-ville pour effectuer des travaux. Un aéroport où des soldats des forces de l'OTAN sont postés en permanence. La capitale du Nangarhar avait traversé une longue période d'attaques meurtrières revendiquées par l'organisation État islamique ou par les talibans il y a plusieurs mois avant de connaître une relative accalmie suite à des renforts des forces de sécurité afghanes déployées sur place. La ville est quadrillée par des barrages tenus par des unités spéciales de la police afghane. Cette attaque rappelle que le climat sécuritaire est très volatile dans le pays malgré les discussions qui ont lieu en ce moment à Doha, au Qatar, entre l'envoyé spécial des États-Unis et les représentants talibans en vue de parvenir à un processus de paix.
La croissance de l'économie mondiale n'atteindra que 3,3% en 2019. C'est plus faible que prévu. La raison de ce nouveau coup de frein, les tensions commerciales et les incertitudes politiques. La croissance a été révisée à la baisse dans presque toutes les économies, du G20 en particulier, pour la zone euro, où elle se limiterait à 1% contre 1,8 encore projeté au trimestre dernier. En ce qui concerne la France, l'OCDE abaisse ses prévisions de croissance à 1,3 contre 1,6 précédemment. Nuages également qui s'accumulent sur l'économie italienne. Ce matin, donc, l'OCDE a prévu une récession de moins 0,2 en 2019 et revoit donc à la baisse ses prévisions de croissance pour 2020 à 0,5%. Précisément pour aider les plus pauvres dans une conjoncture économique morose, l'Italie se dote d'un revenu de citoyenneté, une allocation de base mensuelle délivrée aux plus défavorisés. C'est la mesure phare du mouvement 5 étoiles, le coactionnaire du gouvernement italien avec la Ligue. Elle entre en vigueur aujourd'hui. Les bénéficiaires peuvent déposer depuis ce matin un dossier de demande. Le gouvernement a estimé à 5 millions le nombre de personnes ayant droit à ce revenu minimum. Reportage auprès des bénéficiaires tourné à Rome ce matin par notre correspondante en Italie, Mathilde Imberti.
C'est une Italie convalescente de la crise qui défile au centre d'aide fiscale de Rome, où depuis ce matin, on peut déposer un dossier pour obtenir le revenu minimum. Roberto a plus de 50 ans, ancien commercial, licencié il y a 10 ans, depuis il enchaîne les petits boulots au noir.
Non c'è nessun aiuto. Assolutamente nessun aiuto.
Je suis au chômage. Ma femme aussi. C'est très dur. Les agences pour l'emploi ne proposent rien. Le système ne fonctionne pas. On ne perçoit aucune aide pour l'instant de la part de l'État. Alors on essaye de voir si on entre dans les critères pour percevoir cette nouvelle allocation. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on m'aide à trouver un emploi. Ce n'est pas toucher de l'argent pour toucher de l'argent.
La somme est modulée selon les ressources des bénéficiaires. Elle peut atteindre 780 euros pour un célibataire, 1300 euros pour une famille. De l'argent à dépenser chaque mois depuis une carte bancaire prépayée. En parallèle, le bénéficiaire s'engage à répondre aux offres d'emploi qui lui seront faites. Enfin, une mesure socialement juste, commente Antonia, une vie d'artiste derrière elle et une retraite de misère aujourd'hui.
Heureusement que mes amis ou ma famille m'invitent à dîner. Mais ceux qui n'ont personne. Je ne vois vraiment pas le problème. C'est une aide de base, ce n'est pas une incitation à la paresse. Les jeunes doivent répondre aux offres de travail. En plus, ce revenu est limité dans le temps.
Le revenu est versé durant 18 mois. À partir du mois de mai prochain, 5 millions d'Italiens devraient en bénéficier.
C'est une véritable hécatombe à laquelle on assiste sur la côte atlantique française. Depuis le début de l'année, pas moins de 700 dauphins se sont échoués, dont plusieurs dizaines ces deux derniers jours, essentiellement sur les plages du Finistère, de Gironde ou de Vendée. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais son ampleur est inédite. Bonjour Roméo Van Maastricht.
Bonjour.
Ces dauphins meurent en mer à cause des bateaux de pêche essentiellement et ils se retrouvent coincés en fait dans leur filet et ils s'asphyxient.
Oui, les eaux territoriales françaises abritent une population d'environ 200 000 dauphins. Mais avec plus de 700 spécimens échoués, les scientifiques s'inquiètent quant à la conservation de l'espèce. D'autant plus qu'avec le retour du mauvais temps et du vent sur le littoral atlantique, les carcasses de dauphins sont poussées vers les plages et font exploser le nombre de signalements. La faute aux engins de pêche, selon Olivier Vancanet, biologiste à l'observatoire Pélagis, en charge de la conservation des animaux marins.
Barres, merlus, dauphins mangent la même chose en cette période-ci. Ils sont plutôt sur des petits poissons bleus dont sont assez friands les dauphins et aussi les poissons qui sont ciblés par la pêche. Donc tout le monde est au même endroit. Quand les pêcheurs pêchent dans ces endroits-là, bah, inévitablement ils capturent des poissons mais aussi les dauphins qui vont avec. Comme ce sont des mammifères qui ont besoin de respirer à la surface pour vivre et quand ils sont piégés dans un engin de pêche, ils s'asphyxient et ils meurent en fait. Hein. Donc les pêcheurs les remontent dans leur filet, ils les gardent pas à bord des bateaux, ils les relarguent en mer et ensuite les carcasses dérivées viennent s'échouer.
Des mesures ont été prises notamment au niveau européen pour empêcher la capture accidentelle de dauphins. On utilise des répulsifs acoustiques pour les faire fuir, mais ça n'est pas suffisant pour les associations de défense environnementale. Si les échouages sur les plages sont réellement inquiétants, le pire est ailleurs. Selon les estimations de l'observatoire Pélagis, le nombre de dauphins morts en mer et dont les carcasses coulent au fond de l'océan est estimé à 4000 individus.
Merci Roméo Van Maastricht. 332 contraventions pour outrage sexiste ont été dressées par les policiers et les gendarmes sur l'ensemble du territoire national depuis le mois d'août. Ces chiffres viennent d'être donnés par le secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes. Cette loi en vigueur depuis août sanctionne les différents comportements humiliants vers les femmes, comme des sifflements dans la rue ou des propos graveleux. Contrairement au harcèlement, l'outrage sexiste ou sexuel n'implique pas la répétition des faits. 7 départements sont désormais placés en vigilance orange par Météo France pour vent violent. L'Ariège, la Haute-Garonne, l'Isère, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées ainsi que la Loire et le Rhône. Cet après-midi, le temps sera pluvieux à l'ouest d'une ligne allant de Lille à Biarritz. Ailleurs, les éclaircies domineront. Température douce pour la saison, 11 degrés à Lille, 13 à Paris, 20 à Biarritz. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Prochain journal à 18h, il vous sera présenté par Maxime Fayolle.